La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour à tous, donc nous continuons avec les pères de l'Église. Pour les séances suivantes, je vais vous parler de quelques pères de l'Église et ce qu'ils ont apporté. Alors, ce choix, en fait, relève d'un ouvrage de Benoît XVI qui s'appelle « Les pères de l'Église » de Clément de Rome à Maxime le Confesseur. Et donc, je reprends quelques caractéristiques. Alors, on va commencer par un père apostolique, Ignace d'Antioche. Alors, dans les manuels, on parle des pères apostoliques. Ce sont des auteurs chrétiens de la première moitié du IIe siècle. Alors, ça ne signifie pas qu'ils sont contemporains des apôtres, mais bien qu'ils les touchent par la chronologie. En fait, ils sont vraiment le premier maillon de la chaîne après eux. Alors, cet apport des pères apostoliques règle beaucoup de questions internes à l'Église. Des questions fortes comme le dogme, l'unité, l'écriture, l'organisation. Donc on aborde des questions très très actuelles, la mission, l'évangélisation, se recentrer sur le Christ. Et donc l'apport d'Ignace d'Antioche avec ses lettres est très important pour cette première partie de l'Église. Alors d'abord, Ignace d'Antioche, c'est un martyr. Alors il était l'évêque d'Antioche, une des plus grandes cités de l'Empire, où vivait une grosse communauté chrétienne. Mais au moment où nous faisons sa connaissance, il n'est plus un évêque au milieu de son peuple, mais un chrétien condamné à mort pour sa foi, en route, sous bonne garde pour Rome, où il doit subir le martyr, mais à une date que nous ignorons, entre 110 et 130 probablement. Sur sa route de Syrie à Rome, par mer puis par terre en Asie mineure, il rencontre des envoyés de diverses communautés, des communautés chrétiennes qui veulent le soutenir et manifester leur communion. Et il leur écrit des lettres que nous avons conservées. Nous ne savons pas exactement s'il est effectivement mort martyr, car nous perdons sa trace à Philippe en Macédoine. Et nous savons de lui que ce que nous disent ses lettres. Nous avons de lui 7 lettres en tout, 5 à des églises d'Asie mineure, Éphésiens, Magnésiens, Thraliens, Philadelphiens et Smyrniotes, une lettre personnelle au jeune évêque de Smyrne, Polycarpe, et une lettre aux Romains, qu'il écrit parce qu'il a entendu dire que des chrétiens de Rome allaient tenter d'empêcher son martyr. Il leur demande surtout de n'en rien faire. Lettre très étonnante, où il explique le sens qu'il donne d'avance au sacrifice de sa vie qu'il accomplira à Rome, sous la dent des bêtes sauvages. « Chargez-moi, dit-il, d'imiter la passion de mon Dieu. Car Dieu est sans passion, mais son Dieu à lui, c'est Jésus. Telle est la nouveauté inouïe. » Ignace nous dit à la fois que Jésus est Dieu, que Dieu n'est plus le Dieu des philosophes, et que le martyr, ce corps sanglant, est la plus accomplie des images divines, loin devant le sage et le savant, qui ne se veulent plus qu'âmes pensantes. Alors Ignace d'Antioche, c'est aussi les soucis d'un pasteur. Un de ses combats, c'est, et peut-être le plus important pour lui, c'est l'unité de l'Église. Peut-être parce que la persécution dont il venait d'être victime avait semé le trouble dans sa propre Église d'Antioche, peut-être aussi parce que les églises locales n'avaient pas encore vraiment reçu le ministère d'un évêque unique qui garantissait leur unité, peut-être aussi parce que les différentes églises étaient encore assez peu reliées les unes aux autres et ne rendaient pas encore évidente l'unité d'une église universelle. Ignace était obsédé par l'unité. Dans ses lettres, tout en remerciant les communautés qu'il avait accueillies ou visitées, il ne cesse de leur recommander de rester unis. Et l'unité pour lui se trouve auprès de l'évêque et de lui seul. Voyez comme ce combat pour l'unité est un combat qui a commencé il y a 20 siècles et qui est très actuel aujourd'hui, puisque la question de l'unité est une question brûlante dans l'Église. Le deuxième souci de Ignace, c'est le ministère de l'évêque. Il en parle inlassablement. Rien pour lui dans la communauté chrétienne ne peut se faire hors de l'évêque. Pas même le mariage pour lequel on doit le consulter. Il n'est permis ni de baptiser, ni de faire l'agape en dehors de l'évêque, dit-il. Et un peu plus loin, celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'issue de l'évêque sert le diable. L'union à l'évêque est inséparable de l'union au presbytérium et au diacre, qui sont comme une double couronne autour de l'évêque, comme un chœur qui chante à l'unisson. Donc c'est vraiment une organisation de l'Église locale bien attestée autour de l'épiscopat monarchique. Les choses ont un petit peu évolué avec la collégialité, mais jusque-là, justement, la responsabilité des communautés n'était que collégiale, assurée par les anciens. Et elle devient de plus en plus unique et réservée à l'évêque. En fait, il faut garder cet équilibre entre l'autorité de l'évêque et l'organisation collégiale dans l'Église. La raison pour lui de l'obéissance à l'évêque. Alors Ignace y insiste, il emploie des mots très forts comme « soumission » et que le lien à Dieu et au Christ passe par lui. Il faut suivre l'évêque comme Jésus-Christ suit le Père, car l'évêque tient son ministère de l'agapé du Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il porte le souci à la fois charnel et spirituel de sa communauté. Ignace félicite les Éphésiens d'être unis à leur évêque, comme l'Église l'est à Jésus-Christ et Jésus-Christ au Père, afin que toute chose soit en accord dans l'unité. Troisième combat, l'Eucharistie. Une seule foi, une seule Église pour Ignace, un seul évêque et une seule Eucharistie. Il a une conception très concrète de l'Eucharistie, ferment de vie éternelle, comme si elle était une substance vivifiante pour celui qui la reçoit. Un autre de ces combats, c'est le combat pour la foi. Les lettres d'Ignace montrent que dès cette époque, il y avait des débats d'ordre doctrinal. Qui est Jésus ? Avait-il un vrai corps ? Est-il vraiment ressuscité ? Des questions auxquelles on nous demande aussi peut-être aujourd'hui de revenir. C'était des discours contradictoires qui circulaient dans des communautés. Et Ignace prend clairement position pour dénoncer ce qu'il estime être des déviances. On peut dénoncer et discuter dans l'Église. Un autre combat, c'est le réalisme de l'incarnation. Ignace lutte contre ceux qui voient dans la chair du Sauveur une apparence, à cause de leur culture grecque qui n'admettait pas une véritable incarnation d'un être divin. Ignace affirme que Jésus était un être de chair qui a vraiment vécu la condition charnelle de tout humain et dont la vie et la mort n'étaient pas feintes. Il écrit « Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ, de la race de David, de Marie, qui a vraiment été engendrée, qui a mangé et bu, qui a vraiment été persécutée sous Ponce Pilate, qui a vraiment été crucifiée et qui est mort au regard du ciel, de la terre et des enfers, qui a vraiment été réveillée d'entre les morts, car son Père l'a réveillée. Nous qui croyons en lui, son Père nous réveillera, nous aussi, semblablement dans le Christ Jésus, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. » Bon.